Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h ici à Paris, 3h en temps universel, 5h à Goma.
Gali Bonin.
À la une de cette édition, les combats dans l'est de la RDC. Jeudi, l'armée congolaise a croisé le feu avec les rebelles du M23 près de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Aux États-Unis, la lutte contre l'immigration illégale promise par Donald Trump a commencé. Des raids ont eu lieu dans plusieurs grandes villes démocrates. À l'actualité, c'est aussi ce coup de fil entre Donald Trump et Xi Jinping. Le président américain assure qu'il est sur la bonne voie pour obtenir un accord commercial avec la Chine. Il ne peut pas en dire autant du Mexique et du Canada. Inquiétude parmi les entreprises américaines installées chez le voisin mexicain. Au Royaume-Uni, le jeune homme qui avait tué trois fillettes à Southport en juillet a été condamné à 52 ans de prison. Et nous terminerons ce journal en foot avec le PSG qui s'apprête à laisser partir Randal Kolo Muani. Dans l'est de la RDC, des combats se sont poursuivis jeudi autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Les forces armées congolaises et leurs alliés affrontent les combattants du M23, soutenus par le Rwanda voisin. La correspondance à Kinshasa de Paulina Zidi.
Les affrontements assez violents ont commencé aux alentours de 4 heures ce jeudi matin. Des bombardements venus des positions du M23 et des militaires rwandais en direction de celles des forces congolaises et de leurs alliés à Sake. Et les détonations ont été régulièrement entendues jusqu'à la ville de Goma. Les responsables de l'armée congolaise à l'est ont reconnu l'utilisation d'hélicoptères militaires en appui aérien aux soldats au sol et affirment que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser et protéger la capitale provinciale. Selon plusieurs sources sécuritaire des troupes de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, et de la SAMI-DRC, de la Communauté d'Afrique australe, ont été envoyés sur le front en soutien. Ces affrontements ont déjà provoqué d'importants mouvements de population. En effet, plusieurs camps de déplacés sont situés à l'ouest de Goma, le long de la route qui mène à Sake. On estime qu'il y a environ 600 000 déplacés dans les alentours de la ville, des personnes qui se sont dirigées vers le centre-ville. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Au Proche-Orient, l'armée israélienne poursuit son offensive en Cisjordanie occupée, offensive qui a fait au moins 12 morts. Au troisième jour de l'opération Mur de Fer, des centaines de Palestiniens ont fui le camp de réfugiés de Jenin. C'est cette ville qui est dans le viseur de l'armée israélienne. Selon l'autorité palestinienne, les troupes ont rasé au bulldozer toutes les routes menant au camp de Jenin. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a promis d'y éradiquer le terrorisme. Aux États-Unis, premier coup de frein aux nouvelles politiques de Donald Trump. Un juge américain a suspendu temporairement la remise en cause du droit du sol ordonnée par le nouveau président. Le magistrat parle d'un ordre manifestement inconstitutionnel. La Maison-Blanche assure qu'elle va porter la décision en appel. Cela n'empêche pas la nouvelle administration de poursuivre sa lutte sur d'autres fronts. Jeudi, la police de l'immigration américaine a lancé plusieurs raids pour arrêter des migrants en situation irrégulière, des raids menés symboliquement dans les villes sanctuaires. Ces fiefs démocrates qui tiennent tête aux politiques de Trump, la correspondance à Miami de David Thompson.
Ces premiers raids anti-migrants ont été lancés au petit matin à Chicago et à Boston. Deux cibles qui ne doivent rien au hasard. Ce sont deux bastions démocrates, deux villes sanctuaires, donc pro-migrants. À Chicago, le maire a promis de s'opposer à cette politique d'expulsion de masse et aux rafles de migrants dans sa ville. En réponse, Tom Homan, l'homme que Donald Trump a nommé tsar des frontières pour expulser les migrants, a menacé de poursuivre en justice ce maire de Chicago s'il l'empêchait de mener à bien sa mission. On sait encore peu de choses sur l'ampleur de ces premières arrestations. CAIS, la police anti-immigration, a choisi de médiatiser en acceptant dans ses rangs les caméras de la chaîne conservatrice Fox News. Ces premiers raids ne visent pas des familles, ils ciblent uniquement des individus déjà condamnés et recherchés par la police pour des faits de violence grave. L'administration Trump fait donc ainsi coup double avec ses premiers raids en frappant chez les démocrates pro-immigration et en arrêtant des sans-papiers déjà condamnés pour montrer que cette politique anti-immigration de Donald Trump vise d'abord à assurer la sécurité des citoyens américains. David Thompson, Miami RFI.
Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir lundi, le président américain s'est entretenu avec son homologue chinois. Donald Trump dit avoir eu une conversation amicale avec Xi Jinping. Il a affirmé qu'il pensait être en mesure de parvenir à un accord commercial avec la Chine. Plus tôt cette semaine, Donald Trump a menacé Pékin d'imposer des droits de douane de 10% sur les importations chinoises aux États-Unis. Et la Chine n'est pas la seule visée par ce genre de menaces. Les premiers concernés sont les deux voisins des États-Unis, le Canada et le Mexique. Le nouveau président laisse entrevoir des tarifs douaniers de 25% et ce, dès le mois de février, en dépit du traité de libre-échange qui lie les trois pays d'Amérique du Nord. Cette éventualité inquiète les entreprises des deux côtés de la frontière américano-mexicaine. Carlos Gracia préside la Chambre de commerce américaine au Mexique. Elle représente près de 1400 sociétés états-uniennes dans le pays.
Nous sommes en train de mener des négociations à tous les niveaux, des deux côtés de la frontière, pour sensibiliser les décideurs et leur dire à quel point le traité de libre-échange est important et leur rappeler le niveau d'intégration logistique et industrielle entre les trois pays. Par exemple, dans l'automobile, des pièces peuvent traverser 6, 7 ou même 8 fois la frontière entre les États-Unis et le Mexique avant que la construction d'une voiture soit terminé. Donc imposer des droits de douane dans ce contexte, c'est contre-productif, surtout que le Mexique est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis.
Le président de la Chambre de commerce américaine au Mexique, Carlos Gracia.
RFI.
Au Royaume-Uni, c'était une attaque qui avait profondément choqué le pays. En juillet dernier, un jeune de 17 ans pénétrait dans un atelier de danse sur le thème de Taylor Swift. C'était pour y tuer trois fillettes mortes poignardées. Une dizaine d'autres enfants ont été blessés et traumatisés. L'assaillant a été condamné jeudi à la prison à perpétuité avec 52 ans d'emprisonnement minimal. À Londres, le compte rendu d'Emeline Vain.
Axel Rudakubana vient d'être condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 52 ans pour meurtre, tentative de meurtre et possession de documents liés à un groupe terroriste. Encore mineur lors de la tuerie de Southport en juillet dernier, le Gallois ne pouvait pas recevoir de peine incompressible, mais le juge estime qu'il ne retrouvera probablement jamais la liberté. Expulsé deux fois de la salle d'audience, ce jeudi, le jeune homme n'a pas assisté aux déclarations des parties civiles. Les parents, les enfants et deux animatrices du centre aéré ont raconté cette journée atroce de juillet. La violence de l'attaque, le sang partout, les blessures et la mort, les cauchemars et la culpabilité d'avoir survécu. Même l'avocat d'Axel Rudakubana a peiné à mettre en avant des circonstances atténuantes. Le volet judiciaire des meurtres de Southport s'achève donc ce jeudi, mais il reste un accusé et de taille l'État. Fasciné par la violence, Axel Rudakubana avait été signalé trois fois au service antiterroriste. Le gouvernement a promis une enquête pour identifier les échecs qui ont mené à la tuerie et n'exclut pas de faire de la violence extrême une motivation terroriste. Emeline Vallondre, RFI.
La France et l'Indonésie vont signer un accord pour la libération de Serge Atlaoui vendredi. Condamné pour trafic de drogue en 2007, le Français de 61 ans est dans le couloir de la mort depuis 17 ans. L'accord de transfert sera signé par les ministres de la Justice des deux pays à 8 heures en temps universel. Selon l'agence de presse Reuters, Serge Atlaoui devrait regagner la France le 5 ou le 6 février. En football, le PSG s'affaire à dessiner les contours de son futur effectif. Des recrues sont attendues durant ce mois de janvier qui, hasard du calendrier, coïncide avec le mercato hivernal. Et quelques joueurs jugés indésirables vont quitter la capitale. C'est le cas de Randal Kolo Muani qui s'est engagé avec la Juventus Turin pour clore une histoire contrariée avec le club parisien. Cédric de Oliveira.
Le mariage était pourtant prometteur. Recruté en août 2023 contre un chèque de 90 millions d'euros, Randal Kolo Muani devait apporter toute sa fougue au PSG. Il sortait d'une saison pleine en Bundesliga avec Francfort, mais son intégration n'a jamais été franchement réussie. Son entraîneur Luis Enrique le préférant d'autres profils offensifs. 44 matchs disputés la saison dernière, la plupart en tant que remplaçant, mais l'ancien Nantais a tout de même inscrit 12 buts, dont 6 en Ligue 1. Ça ne l'a pas empêché d'être le meilleur buteur de l'équipe de France sur l'année 2024 devant le capitaine Kylian Mbappé. Mais l'intersaison n'a pas amélioré sa situation au PSG. Malgré deux buts lors des trois premiers matchs de la saison, Kolo Muani a encore reculé dans la hiérarchie des attaquants. Il n'a plus joué depuis le 6 décembre à Auxerre. Son départ était inéluctable, courtisé par de nombreux clubs anglais comme Tottenham ou Manchester United. Kolo Muani a préféré la proposition de la Juventus Turin. Il rejoindra Thiago Motta, désormais sur le banc de la vieille dame. Prêté jusqu'à la fin de la saison, il a moins de 6 mois pour relancer une carrière qui n'avance plus, alors qu'il n'a que 26 ans.
Les précisions de Cédric de Oliveira qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le www.rfi.fr ou notre application mobile Pure Radio pour toute l'actualité radiophonique en direct.